Décryptage. Amélie Beaucourt.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Aujourd'hui, on se penche sur les PFAS, aussi appelés polluants éternels, des molécules de synthèse ultra résistantes, un bijou pour les industriels qui les accumulent dans les produits qu'ils fabriquent, mais un poison pour les hommes qui y sont exposés. Puisque ces molécules, quasiment indestructibles, l'organisme ne sait pas s'en débarrasser. Les PFAS sont associés à une série de problèmes de santé, dont des cancers ou des malformations, et sont toxiques pour l'ensemble du vivant, puisqu'elles s'accumulent également dans les cours d'eau et les sols. Un empoisonnement silencieux qui concerne la planète entière. Quelles sont les zones les plus exposées? Comment faire pour décontaminer l'environnement de ces polluants? Et combien cela va-t-il coûter? Ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui dans Décryptage.
Les PFAS, ça désigne une famille de plus de 10 000 produits chimiques de synthèse employés par toute l'industrie mondiale depuis les années 50. Car le gros atout des PFAS, c'est leur résistance à l'eau, au feu, aux taches, à la graisse. Bref, des substances aux propriétés indestructibles. Résultat, dans nos objets du quotidien, les PFAS sont partout. Dans notre poêle anti-adhésive, notre mascara waterproof, notre imperméable ou des emballages, comme des boîtes de pizza. Mais plus inquiétant, on en retrouve des traces dans notre eau potable et même sur nos fruits et légumes. Au point que nous avons certainement tous un certain taux de PFAS dans le sang.
Avec nous au téléphone pour en parler, Pauline Servant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toxicologue et chargée de mission scientifique pour l'ONG Génération Future. Et avec nous également par téléphone, Olivier Andreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission à l'UFC Que Choisir. Première question pour vous, Olivier Andreau. On vient d'entendre un extrait du documentaire Arte sur la pollution des PFAS. Et donc, on l'a entendu, ustensiles de cuisine, maquillage, eau du robinet. Est-ce que la liste des objets de notre quotidien contaminés est encore longue?
Elle est encore plus longue que celle qui a été évoquée. Hein. Déjà, à travers les tests comparatifs qu'a réalisé l'UFC Que Choisir au cours de ces dernières années, on peut y rajouter des gants de ski, des bombes imperméabilisantes, des nappes anti-taches, mais il y a également des pesticides. Il y a aussi des mousses anti-incendie, des produits de beauté, des produits de peinture ou encore de photographie, j'en passe et des meilleurs.
Pauline Servant, qu'est-ce qu'on sait des effets de ces PFAS sur l'organisme?
Alors déjà, c'est des effets très variés. Hein. Les PFAS sont des molécules qui peuvent atteindre plusieurs organes, donc il y a des effets sur plusieurs grands systèmes du corps humain. On a des effets sur le foie, avec une augmentation des taux de cholestérol et donc un risque cardiovasculaire augmenté. Des effets sur la thyroïde, et ça a des impacts très importants sur le développement des fœtus. Des effets sur notre capacité de reproduction, des effets sur le système immunitaire. Et comme vous l'avez dit, il y a certains PFAS qui sont cancérigènes. Donc c'est très varié. Tous les PFAS ne sont pas tous toxiques de la même manière, au même niveau. Mais l'ensemble de la famille est préoccupante, car tous sont persistants dans l'environnement.
Alors l'UFC Que Choisir et Génération Future, donc les deux associations dont vous faites partie tous les deux, ont publié le mois dernier une enquête sur les PFAS dans l'eau du robinet à Paris, notamment à la recherche d'une molécule en particulier, le TFA. Olivier Andreau, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce TFA, pour commencer?
Alors le TFA, c'est un PFAS, mais c'est un résidu de la dégradation, par exemple, de certains pesticides. Et actuellement, dans l'eau du robinet, la question qui se pose, c'est quelle est la norme qu'il faut appliquer? Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'est pas recherché dans le plan de contrôle officiel qui dépend des agences régionales de santé, mais... Et donc, ce qui veut dire que pour le moment, on ne sait pas de manière officielle s'il y a présence ou pas de TFA dans l'eau. C'est la raison pour laquelle, avec Génération Future, nous avons décidé de réaliser un prélèvement, un sondage, sous la forme de 30 prélèvements qui ont été réalisés un peu partout en France, dans des grandes, des moyennes villes ou dans des plus petites communes. Et là, ce dont on se rend compte, c'est quand on cherche, on trouve, hein, puisque les PFAS, hein, pas que le TFA, on en a trouvé dans 29 prélèvements sur 30. Et en ce qui concerne le TFA, il est massivement présent, et on se rend compte que si on devait appliquer la norme qui pourrait logiquement s'appliquer au TFA en tant que résidu de pesticides, eh bien, on aurait une large majorité de nos prélèvements qui seraient considérés comme non conformes. On a trouvé, en l'occurrence, des valeurs particulièrement élevées à Paris. Hein, ça a été évoqué dans le 10e arrondissement. On en a trouvé également dans l'agglomération de Poitiers, 2600 nanogrammes par litre, ainsi que dans l'agglomération d'Orléans, 1600 nanogrammes par litre.
Vous avez pu confronter ces résultats aux autorités, par exemple aux eaux de Paris qui sont chargées de produire et distribuer cette eau et qui font des prélèvements assez régulièrement. Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ?
Alors, la réponse, elle est intéressante. Elle est finalement de faire une plainte contre X pour pollution de ces eaux. Et parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, la présence de ces PFAS dans l'eau du robinet, ça pose un problème toxicologique et ça pose un problème technique. Actuellement, il est très difficile techniquement d'arriver à éliminer les PFAS de l'eau du robinet. Et quand on y arrive, c'est extrêmement coûteux. Donc la question qui se pose, c'est mais qui va payer ? Sachant que ce n'est pas le consommateur qui est à l'origine de cette pollution. Je voudrais faire un petit retour en arrière. L'origine de cette étude conjointe avec Génération Future et l'UFC Que Choisir sur l'eau de robinet, bien c'est parce que l'année dernière, Génération Future avait démontré une très large contamination des PFAS dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques. Or, c'est justement ces eaux-là, c'est ce qu'on appelle les eaux brutes, que l'on utilise pour la fabrication de l'eau du robinet. Et nous voulions quantifier, en quelque sorte, cette présence éventuelle. Et donc, malheureusement, on voit qu'évidemment, il y a bel et bien présence de PFAS dans une très large proportion de notre eau du robinet. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des actions déterminées qui soient menées par les pouvoirs publics. On parlera certainement au cours de cette discussion du projet de loi qui va être discuté et voté
à l'Assemblée
demain. À l'Assemblée nationale et qui prévoit notamment d'introduire le principe pollueur-payeur dans l'attente d'une réduction progressive et d'une interdiction des rejets dans l'environnement des PFAS par les industriels qui les utilisent actuellement.
On va y revenir effectivement, et vous avez évoqué les enjeux de la dépollution, de la décontamination de ces eaux-là. Pauline Servant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour décontaminer l'eau du robinet à l'échelle d'une ville comme Paris ?
Alors déjà, il faut savoir que c'est totalement illusoire de penser qu'on peut enlever tous les PFAS de l'eau potable et en particulier qu'on peut enlever tout le TFA qui est dans l'eau. C'est quasiment impossible à l'échelle de la France. Ce serait déjà techniquement quasiment impossible et surtout économiquement, ce serait beaucoup trop coûteux. Le problème du TFA et de sa dépollution de l'eau potable, c'est qu'il est très très difficile de l'enlever et les techniques qu'on utilise habituellement en fait, pour traiter l'eau potable ne permettent pas de le filtrer. Et donc il faut installer des filtres plus performants, des nouvelles technologies comme de l'osmose inverse. C'est a priori la seule méthode qui fonctionne pour enlever le TFA. Et ça, non seulement c'est extrêmement coûteux, mais en plus c'est très énergivore, ça consomme de l'énergie. Et ça génère un résidu à queue qui est ultra concentré en PFAS et qu'il faudra se débarrasser aussi.
Et c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on fait de ces PFAS une fois qu'on les a éliminés de l'eau ?
Voilà, c'est la question. Et le problème, c'est qu'on risque de les rejeter ou alors il faudrait incinérer les résidus qui sont récupérés. C'est quasiment impossible finalement de s'en débarrasser. On fait juste déplacer le problème pour l'enlever de l'eau potable et on déplace le problème ailleurs. Et en tout cas, donc Haute-Paris a investi des millions pour enlever le TFA de l'eau potable. Mais clairement, ce ne sera pas possible dans toutes les communes, toutes les collectivités n'auront pas les moyens de le faire. D'autant plus que c'est à la charge de la collectivité et donc du citoyen que ça va se rapporter. Et donc c'est extrêmement important, comme le disait Olivier, d'appliquer le principe pollueur-payeur. Parce que ça va coûter des millions, voire des milliards d'euros.
Vous parliez justement de cette technicité aussi de l'osmose inverse. Donc, corrigez-moi si je me trompe, c'est une technique qui consiste à injecter à haute pression de l'eau dans des filtres avec des membranes très très resserrées. Donc, c'est uniquement pour filtrer le TFA. Les autres PFAS peuvent être peut-être décontaminés d'une autre façon plus facile. Mais cette technique d'osmose inverse, quand on en parle, on parle de machines, on parle de centrales qu'il faudrait installer et en quelle quantité pour traiter ou pour dépolluer un pays comme la France, Olivier Andreau ?
Je pense que Pauline a déjà largement répondu à cette question. Je crois que avant de s'interroger sur la mise en œuvre de la Rolls de la dépollution, il faut mettre des mesures préventives. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'autres polluants plus classiques, tels que les nitrates ou les pesticides, qui, malgré tout, malgré leur nocivité potentielle, vont être finalement lessivés par les pluies, qui vont également se dégrader sous l'action des micro-organismes, sous l'action chimique de la photosynthèse, des UV, etc. À chaque année où on attend, où les pouvoirs publics procrastinent et donc n'agissent pas, ça va être autant de quantités de PFAS relarguées par les industriels fabricants de PFAS ou utilisateurs de PFAS qui vont se retrouver dans l'environnement et augmenter année après année. Donc, il y a une urgence à agir. Et ce qu'il faut faire, donc, la première chose, c'est carrément interdire la production de PFAS et l'utilisation de PFAS. Donc, ce qui est prévu dans la loi, c'est de l'interdire tout d'abord dans les cosmétiques, les textiles, les produits imperméabilisants. Alors, vous pourrez me dire, mais il manque quelque chose auquel tout le monde pense spontanément, ce sont les poils anti-adhésifs. Oui, effectivement. Vous savez qu'il y a eu un lobbying qui a été fait par un industriel qui a évoqué notamment des problématiques de chantage à l'emploi. Nous déplorons absolument ce lobbying qui était réalisé. Pour autant, c'est important que cette loi soit votée parce que c'est une première mesure, c'est un premier pas qui est extrêmement important, cette interdiction d'utilisation progressive qui sera encore élargie en 2030. L'autre point, c'est donc l'interdiction des rejets dans l'environnement. Alors là aussi, ça ne va pas se faire tout de suite. Ce qui est proposé, c'est dans cette loi, c'est d'inscrire tous les industriels qui rejettent des PFAS dans l'environnement, c'est qu'ils doivent s'inscrire dans une progression obligatoire de diminution de ces rejets, avec en 2030 un arrêt total de ces rejets dans l'environnement. Et dans cette attente, la mise en œuvre d'une redevance qui est proportionnelle aux quantités de PFAS. Et ça c'est important parce que vous comprenez bien que les industriels qui regardent en permanence leur budget, lorsqu'ils seront incités finalement à travers cette redevance à payer moins, ils vont évidemment diminuer dans la mesure du possible, dans la mesure technique, ils vont diminuer au maximum leur rejet dans l'environnement. Cette redevance proportionnelle aura donc un effet bénéfique. C'est ça qui est très important. Et puis, maintenant, la question qui se pose, c'est pour les consommateurs, au quotidien, comment est-ce qu'ils font pendant toutes ces années avant que cette loi, qui sera votée, je l'espère, puisse finalement prendre pleinement effet. Notre recommandation, c'est tout d'abord, pour son quotidien, éviter ces poêles qui contiennent des revêtements anti-adhésifs, parce que même si nos tests comparatifs montrent qu'elles sont en conformité avec la réglementation actuelle, il y a un problème parce que cette réglementation actuelle est insuffisamment protectrice, elle ne prend en compte qu'un nombre très limité de PFAS. Donc, utiliser plutôt des ustensiles qui sont réalisés avec des matériaux dont on connaît l'absence de nocivité, je pense par exemple à l'inox, à l'acier. Il faut éviter également les produits alimentaires qui sont emballés au contact direct et qui peuvent, par exemple, avec, vous savez, ces barquettes revêtues d'un revêtement plastique qu'on peut mettre au micro-ondes, là aussi, ça pose un problème potentiel de présence de PFAS. Deuxième chose, éviter les tissus d'ameublement qui ont subi des traitements anti-tache, éviter d'acheter des vêtements imperméabilisés parce qu'on sait que, là encore, ce qu'ont montré nos tests comparatifs, il y a très souvent présence de PFAS. Et puis enfin, en ce qui concerne les produits cosmétiques, sur lesquels il peut y avoir malheureusement des PFAS, préférez plutôt le bio. Voilà, donc c'est tous ces mesures de précaution, c'est le principe de précaution appliqué à soi-même que l'on peut faire au quotidien pour limiter son exposition.
Pour revenir à cette proposition de loi, Pauline Servant, donc, qui sera présentée demain et qui est portée par le Parti des écologistes, vous n'avez pas peur que ça engendre une réponse alternative de la part des industriels qui, comme certains PFAS ont été interdits au départ, ce qui a engendré la création du TFA, donc des particules plus petites, qu'en fait les industriels inventent d'autres méthodes encore plus difficiles à analyser, mais toujours aussi toxiques.
Alors, l'intérêt de la proposition de loi, c'est qu'elle couvre la famille entière des PFAS. Donc, ça veut dire que...
Si pour ceux qu'on connaît actuellement.
Oui, c'est si la proposition de loi est adoptée, ça voudra dire que les industriels ne pourront plus intégrer aucun PFAS dans leurs produits textiles, dans les cosmétiques et dans les fartes pour les skis. Et ça concerne les produits fabriqués en France et aussi les produits importés. Donc, comme on couvre l'ensemble de la famille, c'est justement l'objectif, c'est d'éviter ce genre de substitution regrettable, comme on les appelle, de remplacer un PFAS qu'on sait toxique par une autre substance qui est moins étudiée et pour laquelle on n'a pas encore de preuves de sa toxicité. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette loi, c'est d'éviter ces substitutions regrettables en couvrant l'ensemble de la famille. Et c'est bien ça qu'il faut faire avec les PFAS, hein, c'est vraiment l'ensemble de la famille qu'il faut traiter et pas substance par substance.
Si on dézoome un petit peu et qu'on se penche sur le cas de l'Europe, il y a une enquête menée conjointement par des journalistes et des chercheurs du projet Forever Pollution, avec notamment les journalistes du Monde, qui a révélé à la mi-janvier que l'Europe comptait au moins 20 000 sites contaminés au PFAS à des niveaux qui nécessitent l'attention des pouvoirs publics et plus de 2 000 sites qu'on pourrait considérer comme des hotspots où la contamination est carrément dangereuse. Olivier Andreau, où est-ce qu'ils sont situés ces sites? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques communes, par exemple des proximités avec des usines ou bien ce genre de fabricants de PFAS?
Oui, effectivement. En fait, l'origine de ces PFAS dans l'environnement, on peut la classer en deux types. C'est tout d'abord des fabricants de substances PFAS, hein, qui sont des fabricants qui vont destiner leur matière première à d'autres utilisateurs industriels. Et donc, ça nous amène au deuxième type d'utilisation. Eh bien, ce sont des utilisateurs industriels qui vont intégrer ces composants à leurs propres produits. Et donc, c'est là où on voit donc les deux grands types de contamination des sols et des rivières. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans notre échantillon d'eau du robinet, eh bien, certains prélèvements ont été effectués à proximité de sites industriels qui sont connus pour la production de PFAS.
Donc l'heure est pour l'instant à l'analyse de ces zones contaminées. Et puis se pose aussi la question de la dépollution. C'est en Flandre, en Belgique, l'une des zones géographiques les plus touchées par la pollution des PFAS que se lancent les premiers travaux. Cette enquête du Monde, elle révélait d'ailleurs que si l'Europe voulait décontaminer entièrement le continent, il faudrait débourser 100 milliards d'euros par an au moins, et ce serait 100 milliards d'euros par an à vie. Une enquête qu'on retrouve donc sur le site du monde.fr. L'émission touche à sa fin. Olivier Andreau, Pauline Servant, merci à tous les deux.
Merci à vous.
L'enquête sur les PFAS menée à la fois par l'UFC Que Choisir et Génération Future est aussi à retrouver en ligne sur les sites de vos deux associations. Et pour en savoir plus sur les PFAS et les enjeux de leur interdiction, ce sera le programme de la chronique environnement demain matin sur RFI à 5h20 et 7h20, temps universel. Jeudi dans Décryptage, conséquences de la présidence Trump sur le sol américain, un mois jour pour jour après son investiture. Et pour écouter cette émission, ça se passe sur l'application RFI Pure Radio. Merci à Jugurtha Hammer et Fabrice Violet d'avoir préparé et réalisé cette émission. Dans quelques instants, le débat du jour avec Romain Ozoui.